Et c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Comme attendu, la facture est salée.
Oui, le déficit public de la France a finalement atteint 5,5% du PIB en 2023. Selon les chiffres dévoilés ce matin par l'INSEE, c'est près de 18 milliards d'euros de plus que ce qu'avait prévu le gouvernement. De quoi compliquer forcément l'objectif de désendettement, pourtant réaffirmé par l'exécutif. Explication à suivre dès le début de ce journal. Et puis on en parlera avec notre invité aujourd'hui, Éric Coquerel, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Toujours s'agissant d'économie, on détaillera la situation délicate dans laquelle se retrouve le groupe informatique français Atos, en pleine crise financière et même carrément dans le rouge, même si on le verra, la direction espère encore un accord global pour restructurer sa dette d'ici l'été prochain. Julian Assange peut souffler. Ce matin, la justice britannique a demandé de nouvelles garanties à l'administration américaine avant une éventuelle extradition du fondateur de Wikileaks, lequel encourt 175 années de prison pour des fuites de documents confidentiels. Et puis on reviendra sur cette catastrophe spectaculaire. La nuit dernière à Baltimore, un navire porte-conteneurs a heurté un pont au sud de la ville de la côte est des États-Unis. 7 personnes sont toujours portées disparues. Le dérapage était attendu, il a donc été confirmé ce matin. Le déficit public l'an dernier a atteint 5,5% du PIB, bien au-delà des prévisions du gouvernement. En l'occurrence, le solde négatif de l'État s'alourdit de près de 18 milliards d'euros, soit la correction la plus importante jamais constatée pour des comptes publics hors période exceptionnelle comme le Covid ou la crise financière de 2008. Alors plusieurs explications à cela, à commencer par le ralentissement de l'activité économique, mais aussi un reflux de l'inflation plus rapide qu'attendu, de sorte, Marie Viennot, que ce ne sont pas les dépenses qui ont dérapé l'an dernier, mais bien les recettes qui n'ont pas été au rendez-vous. 21 milliards d'euros de moins au total que ce qu'avait prévu Bercy.
TVA, impôts sur les sociétés, sur les revenus, cotisations sociales, mais aussi rentes des énergéticiens, droits de mutation liés aux achats immobiliers. Sans exception aucune, toutes les taxes et impôts qui alimentent les comptes publics ont moins rapporté que les estimations faites pour 2023. La première raison, c'est parce que l'inflation a diminué plus vite que ce qui avait été anticipé, nous dit Bercy. Cela a pesé sur les recettes de TVA, mais aussi sur les cotisations sociales, car les salaires, notamment le SMIC, n'ont pas autant augmenté que prévu. Deuxième raison, l'impôt sur les sociétés versé par les sociétés financières, les banques, les assureurs, a marqué le pas en 2023. Et ça, Bercy ne se l'explique pas très bien. Les liasses fiscales seront disponibles en juin, nous dit-on, et elles seront alors analysées pour comprendre ce qu'il s'est passé. Troisième raison, la contribution des énergéticiens sur leurs recettes exceptionnelles a rapporté 10 fois moins que prévu, 300 millions au lieu des 3 milliards attendus. Il y a là un problème d'équité fiscale, a commenté ce matin Bruno Le Maire lors d'une conférence téléphonique. Renforcer cette contribution, il y est ouvert, mais ce sera la seule entorse que le ministre de l'économie est prêt à faire sur son refus d'augmenter la fiscalité. Il a d'ailleurs confirmé ce matin que le calendrier de baisse d'impôts serait maintenu pour les classes moyennes et pour ceux qui restent des impôts de production pour les entreprises. Au risque donc d'accentuer encore les pertes de recettes fiscales, tout en appelant en même temps opérateurs de l'État, collectivités locales, organismes de sécurité sociale et parlementaires à la responsabilité collective.
Alors sans surprise ce matin, toutes les oppositions de droite comme de gauche tiennent le gouvernement pour responsable de cette dégradation de la situation budgétaire. Et c'est ainsi d'ailleurs que le ministre de l'économie Bruno Le Maire recevra après-demain les chefs des groupes parlementaires dont il attend avant tout des propositions pour réduire la dépense publique. De son côté, le président de la Cour des comptes assure ne pas être surpris par les chiffres publiés ce matin, Pierre Moscovici, qui déplore une situation fâcheuse. On va y revenir dans quelques instants avec notre invité. Mais avant cela, petit détour par l'autre actualité économique de la matinée, l'annonce par l'ex-fleuron de la tech Atos d'une perte nette de 3,4 milliards d'euros en 2023. Et ce, alors même que l'endettement du groupe informatique français inquiète après l'échec récent de la vente d'une partie de ses activités. La Bourse de Paris a d'ailleurs immédiatement sanctionné cette publication. Le titre a cédé près de 8%. Gwendal Lavina, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons que le groupe est entré dans une procédure amiable de conciliation avec ses créanciers. Il vise un accord global pour restructurer sa dette d'ici à l'été prochain. Et pour cela, la direction assure disposer encore de 2,4 milliards d'euros de trésorerie.
Un chiffre qui ne suffit pas à rassurer les acteurs du marché. La dette nette du groupe dépasse en effet les 2,2 milliards d'euros et la spirale de dépréciation de ses actifs s'accentue. Si cette procédure avec les créanciers a débuté en février, Atos compte présenter dans 2 semaines son cadre de refinancement, et cela alors que le groupe a 3,65 milliards d'euros d'emprunts et d'obligations qui courent jusqu'à fin 2025. Se pose néanmoins désormais la question de la stratégie à mettre en place pour obtenir les liquidités nécessaires et rassurer les créanciers. Airbus et Daniel Kretinsky, un temps en discussion pour le rachat d'une branche, se sont retirés et les désaccords internes sur la façon de procéder s'affichent désormais publiquement. OnePoint, le premier actionnaire d'Atos avec 11% du capital, estimé dimanche dans Le Figaro que ses projets de cession devaient être arrêtés immédiatement. Fin de non-recevoir affiché ce matin par le directeur général d'Atos, Paul Salé, qui repart donc à la recherche d'éventuels nouveaux acheteurs. Il a d'ailleurs profité de la publication des résultats pour assurer, je cite, qu'il n'y aura aucun souci pour les Jeux Olympiques pour lesquels l'entreprise est chargée de la cybersécurité. De son côté, le ministère de l'Économie s'est engagé la semaine dernière à construire une solution nationale pour protéger les activités stratégiques du groupe, notamment dans la défense et le nucléaire.
Et merci Gwendal Lavina. Comme premier retour donc à présent sur l'annonce de ce déficit public pour 2023, bien supérieur à la projection du gouvernement dans un contexte budgétaire tendu. Ce chiffre était particulièrement attendu dès lors que chaque décimale compte pour les finances publiques et que par ailleurs le gouvernement maintient toujours pour autant son objectif de désendettement. Pour en parler avec nous, invité donc de la rédaction aujourd'hui en direct du Palais Bourbon, Éric Coquerel, député insoumis de la Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée, et à vos côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous. Alors Éric Coquerel, donc avec ces annonces officielles aujourd'hui, un déficit confirmé à 5,5% du PIB, une dette publique à 110,6% pour l'année 2023, alors même que le gouvernement tablait sur 4,9% du déficit, ces chiffres ne vous surprennent pas. Selon les documents auxquels a eu accès le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, Jean-François Husson, la semaine dernière, Bercy était au courant de la situation au moment de faire passer son budget. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ?
Ça veut dire que ce budget était insincère. Alors déjà, on l'avait dit quand le chiffre de croissance annoncé pour 2024 sur lequel se basait le budget 2024 était erroné, hein, puisqu'ils annonçaient 1,4%, ce n'avait plus été qu'1%. Et donc la conséquence logique, c'est que les déficits augmentent, puisque ce gouvernement table sur la croissance pour permettre des rentrées fiscales, de cotisations. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, le déficit augmente. C'est ça exactement ce qui est en train de se passer. Donc ce gouvernement a eu tout faux et nous propose des solutions qui risquent fort d'augmenter le déficit tout en produisant des inégalités impossibles à vivre pour les Français.
Parce que pour l'instant, il y a déjà 10 milliards d'euros d'efforts supplémentaires sur les dépenses qui ont été actées, notamment sur la sécurité sociale.
Oui, mais les 10 milliards étaient basés sur le fait que la croissance prévue pour 2024 était moins forte que prévu. Elle est déjà encore, à mon avis, surestimée. Le gouvernement la met à 1%, je pense que ce ne sera pas là. Mais elle ne tenait pas en compte de ce déficit sur 2023. Donc on va se retrouver avec, à mon avis, des nouveaux arbitrages. Et moi, c'est pour ça que j'ai demandé ce matin en conférence des présidents qu'on ait cette fois-ci un projet de loi de finances rectificatif s'il doit y avoir des modifications budgétaires.
Parce que là, vous avez obtenu ce matin d'avoir un débat le 29 avril prochain, donc à l'Assemblée nationale. C'est déjà un premier pas, là, pour pouvoir vous faire entendre, avec aussi, on le disait précédemment, Marie vient d'en parler, avec donc cette réunion avec les chefs de groupes parlementaires après-demain.
Oui, enfin, moi, je fais ce que je peux pour qu'on puisse débattre à l'Assemblée. Je vous dis ça parce que je vous rappelle que la dernière loi de finances, on n'a même pas pu en débattre dans l'hémicycle. Voilà, dans ma commission, oui, mais pas dans l'hémicycle. Donc, j'ai demandé qu'il y ait un débat sur le programme de stabilité, hein, ce qui va être proposé à Bruxelles, mais il n'y a pas de vote. Donc, c'est un peu un couteau sans lame, si vous voulez. Bon, je prends toujours, mais moi, ce que je demande, c'est que d'ici la fin de l'année, il y ait un débat, cette fois-ci, sur le budget en cours, parce qu'on ne peut pas attendre comme ça fin 2024, alors que tous les chiffres ont été erronés et que les prévisions et les annonces du gouvernement induisent des profondes modifications budgétaires.
Le président du Modem, François Bayrou, a appelé le gouvernement et les parlementaires à discuter d'une hausse des taxes sur les super-profits et les super-dividendes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit cette fois, aujourd'hui, ce matin, ouvert à tous les débats. Alors que la semaine dernière encore, il avait rejeté cette option portée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Pour vous, c'est bon signe ?
Alors, pour être exact, c'est nous qui proposons cette option, parce que c'est des options qu'on a mises sur la table lors de la commission des finances, et ils ont été majoritaires. C'est-à-dire que le Modem de monsieur Bayrou a déjà voté en réalité ces possibilités de taxer les super dividendes. On avait voté un certain nombre d'amendements qui rapporteraient 15 milliards à l'État. Voilà. De manière modérée, vous imaginez bien que si le Modem a voté avec nous, c'est modéré. Mais moi, je prends si on inverse la logique. Et cette logique, c'est quoi? C'est que on veut faire en sorte que les Français payent les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches par Emmanuel Macron depuis 2017. Voilà. Il faut revenir là-dessus parce qu'il faut qu'ils contribuent à l'effort national. Et il n'y a pas de raison que les dividendes n'arrêtent pas d'augmenter dans ce pays quand les revenus des salaires baissent. C'est une injustice et c'est très mauvais d'un point de vue économique.
Il y a deux semaines, la Cour des comptes avait évalué la réduction des dépenses nécessaires à 50 milliards entre 2025 et 2027. Selon l'OFCE, l'effort devrait plutôt être de l'ordre de 80 milliards d'euros. En tant que président de la Commission des finances et député de la France insoumise, vous proposez quoi ?
Alors déjà, je propose qu'on arrête comme ça de nous faire un chantage à la dette. Voilà, arrêtons. La France n'est pas ruinée. Et si, par exemple, il y a une dette qui est insupportable à transmettre à nos enfants, c'est la dette écologique. Je vous rappelle que Pisani-Ferry, qui est un économiste qui était un proche de Macron, a fait un rapport l'an dernier qui propose, lui, d'augmenter encore un peu la dette pour permettre de financer cette transition écologique, plus d'ailleurs une taxe sur les super-profits. On s'est retrouvé là-dessus. Donc, moi, ce que je propose, c'est on arrête d'avoir les yeux fixés sur cette question. Les Américains ne le font pas. Ils laissent filer la dette et ils ont une croissance bien supérieure. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on veut à tout prix réduire le déficit, et puis surtout, j'allais dire, répondre aux besoins des Français, aux enseignants de mon département de la Seine-Saint-Denis qui demandent des moyens à la transition écologique, il faut aller chercher l'argent là où on l'a mis, c'est-à-dire notamment dans les revenus du capital. Voilà, c'est ce que nous proposons. Moi, j'ai fait une lettre à Mme Borne qui proposait en novembre dernier 43 milliards de dépenses fiscales en moins et de recettes en plus. Je pense qu'on pourrait peut-être l'examiner. C'est mieux que de baisser les dépenses publiques.
Merci Éric Coquerel pour cette interview. Nous retournons à la Maison de la Radio rejoindre Thomas Cluzel.
Et merci également à vous, Sophie Delpont, ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques et à Louise Guérin pour la préparation.
Faire respecter les droits et les libertés en France et dans tous les départements d'outre-mer, c'est le rôle de la défenseur des droits. Et ce matin, l'autorité administrative indépendante publiait son rapport annuel.
Ou quand on apprend que 2023 aura été marqué par une banalisation des atteintes aux droits, une fragilisation qui n'est pas nouvelle, c'est vrai, mais qui s'inscrit dans une tendance de fond avec une forme d'accélération. Et c'est le cas en particulier à Mayotte. Talita Thiro, bonjour.
Bonjour.
L'accès aux droits dans l'archipel français y est particulièrement discordant par rapport à l'Hexagone. 84% de la population du département vit actuellement sous le seuil de pauvreté avec essentiellement trois problèmes qui ressurgissent.
Tout d'abord, le rapport souligne des problèmes liés à l'accès à l'eau potable. Mayotte a soif, pouvons-nous lire dans les rues de Mamoudzou. Depuis le début de la sécheresse en mars 2023, les pénuries d'eau se sont intensifiées. Les retenues collinaires des réserves artificielles qui fournissaient 80% de la population en eau ont atteint un seuil critique. Les familles passent alors plusieurs heures, voire des jours sans eau au robinet et lorsqu'elle est disponible, elle est parfois blanchâtre ou contaminée. La défenseure des droits préconise donc des mesures urgentes, la remise en état des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que l'abandon des créances pour les factures émises avant 2021. Ensuite, l'éducation. À Mayotte, la moitié des habitants est mineure. En 2018, un peu plus d'un quart des personnes sorties du système scolaire possédaient un diplôme qualifiant, contre presque trois fois plus en métropole. En cause, la perte de jours d'école, le décrochage scolaire, l'illettrisme et les difficultés de scolarisation des élèves en situation de handicap. Enfin, le coût de la vie est très élevé. À Mayotte, les prix sont 30% plus onéreux qu'en métropole, surtout les produits importés comme le lait, le fromage et les yaourts. Selon le rapport, ces inégalités dans l'accès aux droits et aux services publics par rapport à l'Hexagone aggraveront la défiance dans les institutions déjà fortes en Outre-mer.
Merci Talita Thiro.
Vous écoutez France Culture, il est 12h44 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Un nouveau sursis pour Julian Assange. Ce matin, la Haute Cour de justice de Londres lui a accordé le droit de contester son extradition aux États-Unis où le fondateur de Wikileaks est poursuivi pour espionnage, de quoi marquer donc un nouvel épisode dans ce long, très long feuilleton judiciaire érigé en symbole des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse. Richard Place, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Londres, en clair, les deux juges de la Haute Cour réclament donc aux États-Unis des garanties afin que Julian Assange puisse plaider le premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression.
Oui, c'est cela. En fait, la défense de Julian Assange devant la Haute Cour britannique avait soulevé 9 points sur lesquels elle considérait qu'elle pouvait obtenir gain de cause et empêcher son extradition et lui permettre de faire appel. Aujourd'hui, les deux juges retiennent 3 de ces points. Vous en avez soulevé un, celui de la liberté d'expression, le premier amendement de la Constitution américaine. Il y a également le fait qu'il ne soit pas discriminé en cas de procès aux États-Unis du fait de sa nationalité, lui qui n'est pas américain. Enfin, 3e point, la justice britannique demande à l'administration américaine de s'engager à ne pas le condamner à mort, puisque certaines des charges qui pèsent contre lui pourraient mener à cette décision. Et là-dessus, donc, la justice britannique dit qu'il serait alors impossible de l'extrader dans ces conditions s'il devait risquer la peine de mort. Les États-Unis ont 3 semaines pour donner un argumentaire, des garanties, expliquer comment, sur ces 3 points, ils peuvent convaincre la justice britannique. Une fois qu'elle aura produit cet argumentaire, ces garanties, eh bien la justice britannique l'étudiera et la Haute Cour se réunira à nouveau le 20 mai prochain pour statuer sur le cas de Julian Assange. On est revenu un peu au même point, sauf qu'au lieu d'avoir 9 points à soulever, il n'y en aura plus que 3 pour savoir s'il peut faire appel ou s'il doit être extradé.
Merci Richard Place, en direct de Londres.
Les images sont pour le moins spectaculaires.
Cette nuit, un pont métallique à 4 voies s'est littéralement effondré après qu'un porte-conteneur a percuté un pilier de l'ouvrage. La scène se déroule à Baltimore, sur la côte est des États-Unis. Sur les images de vidéosurveillance, on aperçoit des lumières, probablement celles des véhicules circulant sur le pont, avant que l'édifice ne se déforme tel un animal blessé avant d'être précipité dans la rivière. Le premier bilan fait état de 7 personnes disparues. Le maire parle d'une tragédie inconcevable. Quant au gouverneur, il a aussitôt décrété l'état d'urgence. Les précisions d'Étienne Monin.
Et sur les vidéos des témoins, la scène à tout du film catastrophe hollywoodien. De nuit, 1h30 heure locale, 6h30 heure française, on voit un gigantesque porte-conteneur heurter une pile du pont. La route et toute la structure de fer s'effondrent alors comme un ruban dans la rivière. Le porte-conteneur, le Dali, fait 300 mètres de long. Il est sous pavillon singapourien. Il devait relier Baltimore à Colombo. Il date de 2015. Sur une vidéo d'un peu plus de 3 minutes, on voit qu'il fait un virage en direction de la pile du pont. On aperçoit aussi un panache de fumée noire à l'arrière. À ce moment-là, il n'y a pas de voiture visible sur la 2x2 voies du pont, mais les pompiers cherchent toujours 7 personnes dans la rivière. Les sonars ont repéré des véhicules dans l'eau qui est autour de 8 degrés. Le pont Francis Scott Key, du nom de l'auteur de l'hymne américain, fait 2,5 km de long. Il traverse le fleuve Patasko. Il est utilisé par 11 millions de personnes chaque année. C'est un passage clé pour l'activité en direction de la côte est des États-Unis. À ce stade, selon la Maison Blanche, il n'y a pas d'intention malveillante derrière cette catastrophe.
L'appel inédit hier du Conseil de sécurité de l'ONU, un cessez-le-feu immédiat à Gaza, dévasté par la guerre et au bord de la famine, n'y aura rien changé. Ce matin, l'armée israélienne a de nouveau bombardé l'enclave palestinienne.
C'est devenu l'une des armes nouvelles de guerre à l'échelle mondiale.
La démarche,
le piratage
n'est pas concerté, mais les
informatique.
Les cyberattaques, en particulier contre les institutions publiques occidentales, ont proliféré ces dernières années. Le plus souvent, la liste des présumés coupables se résume à un axe du mal bien identifié: Chine, Russie, Corée du Nord et Iran. En l'occurrence, et dans de rares accusations publiques et détaillées, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont choisi de demander clairement des comptes à Pékin, qui, comme attendu, a vertement protesté ce matin en qualifiant ces accusations de totalement infondées. Précision de notre correspondant Sébastien Berriot.
Officiellement, la démarche n'est pas concertée, mais les accusations lancées par Washington, Londres et Wellington arrivent le même jour et pour dénoncer des faits quasiment similaires. Dans les trois cas, c'est l'État chinois qui est directement mis en cause. Les Américains évoquent notamment une gigantesque opération de piratage à l'échelle mondiale, orchestrée selon Washington depuis la ville de Wuhan par le ministère chinois de la Sécurité d'État. La Grande-Bretagne dénonce de son côté des cyberattaques visant la Commission électorale du Royaume-Uni. Régulièrement mis en cause sur ces thématiques, le régime communiste réagit comme à chaque fois de façon très ferme. Le ministère des Affaires étrangères demande à Londres et Washington de cesser de salir et noircir la Chine. Et Pékin retourne les accusations, estimant que les États-Unis sont, je cite aujourd'hui, le plus grand empire de piratage au monde. Le résultat, en tout cas, c'est que ces affaires empêchent la Chine de retrouver de véritables relations normales avec l'Occident. Il y a quelques jours, Pékin célébrait en grande pompe ses retrouvailles avec la Nouvelle-Zélande. Et voilà que tout est à nouveau compromis.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert et pluvieux sur la majeure partie du territoire, seule la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes pourront bénéficier de quelques rayons de soleil. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous aurez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.